Le journal est présenté par Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir. Des scènes de liesse en Iran. Après la rupture du jeûne ce soir, de jeunes Iraniens sont descendus par centaines dans les rues de Téhéran pour célébrer l'accord sur le nucléaire signé plus tôt dans la journée à Vienne et qui ouvre la porte à une levée des sanctions économiques. Nous reviendrons sur le contenu de cet accord avec le chercheur Reza Marachi. Nous irons également à Washington retrouver Frédéric Carbone. C'est bien la volonté inébranlable du président américain qui a permis une issue favorable après des années de tractations infructueuses. Un accord dénoncé par Israël comme une erreur historique et rejetée à l'unanimité par son cabinet de sécurité ce soir. L'accord sur la Grèce devant le Parlement grec qui débat des mesures d'austérité imposées par les créanciers. « J'assume la responsabilité d'un texte que j'ai signé pour éviter le désastre », a déclaré ce soir Alexis Tsipras à la télévision grecque avant un vote prévu demain soir. En France également, le Parlement se prononcera demain. Un vote sans grand suspense, nous dira Stéphane Robert. Les nouvelles infections par le virus du sida ont reculé de plus de 35% depuis l'an 2000. Ce sont les derniers chiffres de l'ONU. Ban Ki-moon, le secrétaire général, prédit une génération sans sida. Les ONG tempèrent son ardeur. Pour une fois, le terme n'est pas galvaudé, c'est bien sur un accord historique que s'ouvre ce journal. Celui signé aux petites heures du jour entre l'Iran et le groupe 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, France, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, Chine et l'Allemagne. L'accord vise à s'assurer que l'Iran ne développera pas de programme nucléaire militaire, en clair ne cherchera pas à fabriquer une bombe atomique en échange de la levée progressive et réversible des sanctions économiques qui étranglent le pays. De Washington à Moscou, l'accord est unanimement salué. Ce texte ouvre une nouvelle page de l'histoire au Moyen-Orient en permettant à l'Iran de retrouver un véritable poids sur la scène régionale, d'où les réticences des monarchies sunnites du Golfe, d'où les craintes exprimées par Israël qui parle d'une erreur historique. Le cabinet de sécurité israélien a rejeté l'accord à l'unanimité ce soir, estimant qu'il n'engageait pas l'État d'Israël. Il faut regarder la lettre de cet accord avant de s'insurger, répond en substance le chercheur Reza Marachi du National Iranian American Council, le NIAC, un lobby iranien aux États-Unis.
Les deux parties ont été très honnêtes dans leurs remarques sur cet accord, disant que c'était un bon accord, pas seulement vis-à-vis de l'Iran ou des 5+1, mais vis-à-vis du monde. Cet accord est maintenant public sur Internet, les gens vont pouvoir le lire et l'analyser. Et comme l'a dit le secrétaire d'État américain John Kerry, les critiques qui vont être faites doivent reposer sur des faits. C'est une limitation sans précédent de la capacité d'enrichissement de l'uranium de l'Iran. Ce sont des inspections et des vérifications sans précédent dans l'histoire du monde. Vous pouvez toujours en demander plus, mais rien de tel n'a jamais existé. Et le niveau avec lequel l'Iran va être progressivement réintégré dans la machine politique internationale, dans les structures du monde, est important. C'est quelque chose qu'ils voulaient. Ils voulaient la dignité, ils voulaient la légitimité, ils voulaient le respect, et c'était pour eux le meilleur moyen de les obtenir. Donc dans ce sens, c'est un accord gagnant-gagnant.
Reza Marachi au micro de Ludovic Piétenu, notre envoyé spécial à Vienne. Un accord gagnant-gagnant et à la manœuvre, les États-Unis qui depuis de longues années n'ont pas ménagé leur peine pour renouer les fils du dialogue. C'est bien la victoire et la marque également du président Obama que l'on peut lire dans cet accord qui illustre la manière du président américain en matière de politique étrangère. Frédéric Carbone nous appelle de Washington.
En arrivant à la Maison-Blanche, Barack Obama a cette formule. Il faut tendre la main à ceux qui sont prêts à desserrer le poing. Clairement, l'Iran est le premier pays concerné, le pari diplomatique majeur. Obama écrit très vite aux dirigeants de Téhéran, mais il faut attendre l'arrivée du président Rouhani pour rendre le dialogue possible. Négociations secrètes d'abord, coup de fil entre les deux hommes, puis discussion multilatérale. Pour Barack Obama, l'accord de Vienne constitue donc la preuve de la réussite de sa méthode. Cet accord démontre que la diplomatie américaine peut produire des changements significatifs, des changements qui rendent notre pays et le monde plus sûrs. Aujourd'hui, parce que les États-Unis ont négocié en position de force, nous avons stoppé la menace nucléaire au Moyen-Orient. C'est l'argument majeur du président américain. Sans accord, l'Iran poursuivrait sa course à la bombe atomique avec un risque de guerre dans la région la plus instable du monde. Là, le programme nucléaire est gelé, les inspections garanties pendant 15 ans, les ventes d'armes conventionnelles à l'Iran interdites pendant 5 ans, d'où l'avertissement lancé aux élus américains. Ce serait irresponsable de bouder cet accord, je mettrai mon veto en cas de rejet par le Congrès. Il faudrait dans ce cas de figure une majorité des deux tiers pour bloquer le processus. Après cette étape seulement, Barack Obama pourra penser à la trace qu'il laissera dans l'histoire.
L'accord doit donc désormais être soumis au Congrès américain, contrôlé par les républicains qui sont très méfiants envers Téhéran. Il sera endossé par le Conseil de sécurité de l'ONU, une formalité qui doit intervenir d'ici quelques jours. jours, selon Paris, probablement dès la semaine prochaine. En Iran, ce sont de véritables scènes de liesse dans les rues de Téhéran. Les festivités ont débuté dès la conférence de presse finale des négociations de Vienne, retransmise en direct à la télévision d'État, tout comme ce qui était impensable il y a encore quelques jours, le discours de Barack Obama. Une foule de jeunes dansant et chantant a ensuite envahi les rues après la rupture du jeûne au son de klaxons et de trompettes. La Grèce à l'arrêt sans doute demain. Les appels à la grève se sont multipliés chez les fonctionnaires, dans les transports, les pharmacies, un secteur qui doit être réformé, alors que le Parlement grec est convoqué pour ratifier l'accord arraché à Bruxelles. Un texte qui ne passe pas auprès de la frange dure de Syriza. Ce n'est qu'une fois que le Parlement grec aura adopté des réformes drastiques sur la TVA et les retraites notamment, que la BCE, la Banque Centrale Européenne, pourrait relâcher sa pression sur les banques grecques et leur permettre de rouvrir. La Grèce a notamment besoin de 3,5 milliards d'euros dès lundi prochain pour rembourser des obligations arrivant à échéance détenues par la BCE. Ce soir, Alexis Tsipras, le Premier ministre, s'exprimait à la télévision. « J'assume la responsabilité d'un texte que j'ai signé pour éviter le désastre », a-t-il dit, avant d'ajouter que l'ouverture des banques dépend de l'accord final qui n'aura pas lieu avant un mois. C'est aussi demain qu'en France, le Parlement est appelé à se prononcer sur cet accord. Lors de sa traditionnelle interview du 14 juillet, François Hollande a d'emblée mis en avant son rôle. Je ne dis pas que c'est la France qui a gagné, a-t-il dit, mais elle a occupé toute sa place, joué tout son rôle pour éviter une sortie d'Athènes de la zone euro. Députés et sénateurs voteront donc demain, après toute une série d'interventions. Il s'agit d'un vote symbolique qui n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Et l'issue du scrutin ne fait d'ailleurs guère de doute, Stéphane Robert.
C'est le oui qui devrait l'emporter à une très large majorité. Lundi, le Parti Socialiste avait salué cet accord, mettant en avant le rôle de François Hollande qui avait permis de sauver la Grèce et la zone euro, les députés PS devraient donc le valider à l'unanimité, ou presque. Même chose du côté de Les Républicains, anciennement l'UMP. Hormis Nicolas Sarkozy, tous les leaders du parti ont salué l'issue de la crise. François Fillon, Alain Juppé, Éric Woerth. Et donc très logiquement, le président du groupe à l'Assemblée, Christian Jacob, a d'ores et déjà déclaré qu'il se prononcerait en faveur du oui. Il devrait être suivi à droite dans une large majorité. Seul un petit groupe de souverainistes, emmené par Thierry Mariani et Jacques Millard, devrait s'afficher en faveur du non. Les écolos, eux aussi, ont fait savoir qu'ils y étaient plutôt favorables via la secrétaire générale du parti, Emmanuel Cos, qui a concédé que cet accord avait permis de sauver l'essentiel. Quant aux députés Front de Gauche, ils sont divisés. Si Marie-Georges Buffet et François Asensi annoncent vouloir s'y opposer, le communiste André Chassaigne déclare qu'il va le valider. Au bout du compte, ce vote sans risque est plutôt une bonne affaire pour François Hollande et son gouvernement, puisqu'il donnera une légitimité démocratique à une décision prise en petit comité à Bruxelles, dans les salons privés des institutions européennes.
En 2000, les Nations Unies avaient fixé 8 grands objectifs du millénaire pour 2015, dont combattre le virus du sida. Ce dernier objectif est aujourd'hui en passe d'être atteint. Selon les chiffres de l'ONU, les nouvelles infections ont reculé de 35,5% depuis l'an 2000. Un optimisme que certains observateurs ont toutefois pris soin de tempérer. Stanislas Vazak.
Le constat est positif pour l'ONU car en l'espace d'une quinzaine d'années, on est passé de plus de 3 millions de contaminations annuelles à 2 millions l'an dernier. Autre statistique encourageante, 40% des malades du sida, soit 15 millions de personnes, bénéficient aujourd'hui des traitements antirétroviraux. Il n'était qu'un million dans ce cas en 2001. Bref, un tableau favorable qui amène Ban Ki-moon à s'enflammer. Le monde a réussi, l'épidémie a été enrayée et inversée. Nous allons vers une génération sensible. Sida, déclare le secrétaire général de l'ONU. Pour Marc 19, directeur général délégué de l'association AIDE, cet optimisme presque béat ne doit pas conduire à la démobilisation.
Le risque de démobilisation, il est possible si on n'est pas un peu précis. C'est-à-dire qu'il faut à la fois dire qu'on a des bons résultats, mais que ces bons résultats, ils sont conditionnés à un certain nombre de choses. Ils sont conditionnés au respect des droits humains, c'est-à-dire les droits des usagers de drogue à avoir accès à des services de santé, le droit aux hommes homosexuels à vivre leur vie comme ils l'entendent et à ne pas être pourchassés, le droit aux personnes qui se prostituent à être accompagnées et soutenues. Ces résultats-là, cet optimisme-là, il est conditionné à l'accès aux droits des personnes avec ce VIH et au maintien des financements.
Et c'est vrai que la lutte contre le sida coûte cher. Selon le rapport de l'ONU, si on veut en finir avec la maladie à l'horizon 2030, il faudra encore débourser environ 160 milliards de dollars d'ici 2020.
Le temps demain, très chaud sur le sud-ouest et l'arrière-pays méditerranéen. Grisaille et quelques gouttes le matin sur la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Un ciel radieux partout ailleurs.